Je suis très contente parce que ça fait déjà quelques mois que je ne m'étais pas adressée à André Vincent. André Vincent qui a dirigé le service québécois du livre adapté très longtemps, mais qui ne l'est plus, mais qui est encore membre du conseil d'administration de Vues et Voix et qui est membre du RAM. Bonjour André Vincent.
Bonjour Clotilde, vous allez bien?
Oh, je vais très très bien, André. André, aujourd'hui, on va se poser cette question. Comment peut-on changer la perception des personnes handicapées visuelles? En fait, c'est comment changer la perception des employeurs vis-à-vis des personnes handicapées visuelles. Parce qu'il y a encore du boulot à faire, hein, André?
Oui, il y a pas mal de travail à faire. En fait, je réfléchissais il y a quelques semaines là-dessus. Ça m'arrive... à l'occasion, et je faisais le constat qu'on est encore face à une situation qui n'a pas bougé tant que ça, si on regarde les statistiques, depuis bientôt 50 ans que je côtoie le milieu de la déficience visuelle. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup à faire.
Alors, on se demande... Et c'est ce que vous faites, parce que je tiens à préciser que vous avez fait paraître un article sur le travail chez les personnes déficientes visuelles.
Oui, un texte d'opinion.
Donc, oui, en fait, c'est ça.
Où je formule un petit peu ce que moi je pense de la situation, mm-hmm. et comment j'explique certaines choses.
Oui, et entre autres, vous vous demandez comment il se fait qu'en 2017, il faut encore légiférer sur l'accès à l'emploi, c'est bien ça?
Oui, ma réflexion est partie de là, puisque le gouvernement fédéral songe à adopter une nouvelle loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, et je sais que la loi va aborder notamment la question de l'emploi, en tout cas, mm-hmm. les questions. Et pourquoi faut-il encore légiférer, alors mm-hmm. qu'on peut penser qu'avec toutes les nouvelles technologies qu'il y a maintenant à la disposition des personnes handicapées, et notamment les personnes déficientes visuelles, quand on sait qu'il y a de plus en plus de personnes déficientes visuelles qui poursuivent des études supérieures et qui ont un bon niveau de diplomation, alors qu'est-ce qui explique que la situation nécessite encore une intervention gouvernementale?
Mm-hmm. Et quelle est la réponse?
La réponse, d'abord, elle vient d'un constat. On est en 2017 et on constate que le taux d'emploi chez les personnes déficientes visuelles est autour de 38%, alors qu'il est de deux fois plus, 73% dans la population en général. Bon. On peut se dire, on peut comprendre la situation, les personnes déficientes visuelles ont davantage de contraintes, mais c'est quand même pas satisfaisant comme réponse.
Non, effectivement. Puis il y a le taux de chômage, et puis pourtant, il y a des moyens de plus en plus pour jouer un rôle actif. Et puis, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de personnes handicapées qui détiennent des diplômes, mais pourtant, ça ne bouge pas. Vous vous demandez pourquoi il est encore nécessaire d'intervenir avec une loi. Il y a les
Oui, parce que la perception des employeurs par rapport aux personnes handicapées et déficientes visuelles, notamment, est encore
empreinte
de préjugés. Bien sûr, on ne va pas le dire aussi ouvertement que ça, puisque ça paraît mal, puis ça passe mal, et il ne faut pas faire de discrimination. Mais dans la pratique, les employeurs, même quand ils côtoient au quotidien pendant des années des personnes qui ont un handicap et une déficience visuelle, sont souvent portées à voir davantage le handicap que la personne d'abord et ses compétences professionnelles. Et je pense que ça s'explique en bonne partie, parce que quand on parle de déficience visuelle, on sévère, c'est un handicap qui paraît beaucoup et qui fait encore peur. Je pense il y a une quarantaine d'années, il y a une chercheuse qui avait dit découvert par ses recherches que
le handicap,
être aveugle, c'était probablement le pire des handicaps pour la population. Et je pense que c'est encore un peu vrai de nos jours.
Il y a des gens Qui apparemment, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous voulez aussi parler et vous étendre un petit peu pendant cette entrevue-là, qui renforce par leur attitude et leur comportement la crainte des employeurs, hein, d'avoir à payer un prix trop lourd en accommodement. De quoi parle-t-on là?
Oui, ben je fais le constat, encore là, c'est mon opinion, que les milieux de l'éducation et de la réadaptation qui interviennent auprès des personnes qui ont une déficience visuelle n'ont pas toujours l'attitude positive et pour favoriser chez les personnes auprès de qui elles interviennent un comportement proactif dans leur inclusion. Je m'explique. Je pense qu'on a tendance trop souvent parfois à dire « ben c'est pas facile d'être déficient visuel, puis telle chose est difficile ». Et on ne renforce peut-être pas suffisamment là, la notion d'effort, parce que ça demande un effort pour une personne déficiente visuelle, bien sûr, de poursuivre des études, mais par la suite, d'occuper un emploi. Et je donne quelques exemples. On sait que le braille, c'est reconnu chez les personnes qui ont une déficience visuelle sévère. C'est les personnes qui utilisent le braille qui occupent le plus fréquemment des emplois. Intéressant. Et pourtant, dans les milieux de réadaptation et d'éducation, ben on a tendance de nos jours à dire le braille, c'est difficile, c'est une chose qui dans l'esprit de certains, il faut presque plus l'enseigner parce que c'est trop difficile, alors que c'est pas du tout le cas, je peux en témoigner.
Oui.
Mais ça demande un effort de l'apprendre. Autre chose, on constate que de plus en plus de jeunes non-voyants se rabattent pour se déplacer sur le transport adapté, dont les horaires sont peut-être un petit peu aléatoires à l'occasion. Comment se fait-il qu'à 20 ou 30 ans, on doive recourir au transport adapté si on n'a pas d'autres raisons que la déficience visuelle? Et quand on dépend d'un transport adapté pour un emploi régulier qui demanderait peut-être des horaires flexibles, ben c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux vu par les employeurs.
Je comprends.
Donc, ce sont quelques exemples parmi bien d'autres, mais je trouve qu'il faut davantage encourager les personnes déficientes visuelles à démontrer des efforts personnels, à être proactifs dans la recherche de solutions qui vont faciliter leur inclusion au travail et non pas toujours attendre que la solution vienne de l'employeur ou vienne d'un centre de réadaptation, etc.
Message entendu et compris, André. Et du côté de l'employeur, qu'est-ce qui peut être fait?
Ben, je pense que ce qui peut être fait, j'ai parlé de législation tantôt, et je pense que c'est nécessaire quand même parce que à compétence égale, on constate que chez les Canadiens actuellement, les employeurs qui ont été sondés, il y en a 70% qui vont préférer engager une personne non handicapée à une personne qui a une déficience. Donc, il y a encore énormément de travail à faire et je pense que la question d'établir certains quotas à atteindre devient nécessaire. Mais il y a également la sensibilisation pour montrer que la déficience visuelle a les outils pour bien faire le travail. Elle a les compétences, mais les outils aussi qui vont faciliter ça. Je crois qu'avec les besoins actuels, on sait que la population vieillit beaucoup et que les employeurs constatent qu'il y a un manque, un manque à gagner, mais dans le sens de pour trouver une relève. Et je pense qu'ils vont devoir se tourner vers des personnes qui n'étaient pas nécessairement visées dans leur plan d'embauche, mais qui devraient l'être davantage dorénavant.
André Vincent, tout cela est fort intéressant et vous savez que vous participez à la toute première émission de Aime l'été, d'accord?
Oui.
Alors, sujet sérieux, sujet peut-être parfois un petit peu moins sérieux. Je voudrais, si vous me le permettez, vu qu'il me reste encore une petite minute, je voudrais profiter de cette minute pour vous poser une question. Est-ce que vous jouez toujours aux échecs?
Je joue toujours aux échecs de plus en plus. Je suis actif et cette année, je suis devenu président de l'Association des joueurs d'échecs handicapés visuels. Et en novembre prochain, on va tenir notre 20e tournoi. Donc, c'est un anniversaire. Ça va se dérouler à Montréal. Et oui, je joue
Ah.
toujours aux échecs.
Bon, alors écoutez, vous savez qu'on va certainement se rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs comme moi, qui se demandent, mais comment ça se passe quand on joue aux échecs et qu'on est non-voyant?
Ben, ça me fera plaisir de vous en
Alors.
parler, d'autant plus qu'il y aura cette année une nouveauté chez nous, un tournoi junior pour les jeunes non-voyants de moins de 18 ans.
C'est quand ça?
C'est au mois de novembre,
Au mois
donc
de
on
novembre,
a.
d'accord.
Oui.
Alors écoutez, à un moment donné cet été-là, on vous rappelle et on vous dit expliquez-nous comment ça se passe, parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Comment ça se passe les échecs pour les personnes non-voyantes? Voilà, alors ça c'était pour le petit côté un petit peu plus léger de cette entrevue avec vous.
Ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions à ce sujet-là.
Merci beaucoup,
Et
André.
bon succès avec cette émission estivale.
Ben, vous êtes très gentil, André Vincent. Je rappelle que vous pouvez, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, contacter le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, si ce n'est déjà fait. C'est simple comme bonjour, c'est RAMM, RAAMM.org. Et je voudrais remercier donc André Vincent d'avoir répondu à mes questions, lui qui est membre du RAM et qui se fait du souci pour l'avenir des non-voyants au Québec et au Canada. Merci beaucoup, Monsieur Vincent.